When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Bienvenue au Balado Urbania.
Bonjour et bienvenue au pire moment de l'histoire avec Charles Beauchesne, le podcast où on s'attarde aux détails les plus sinistres de notre grande aventure en tant que race humaine, juste question de se rappeler que tout a toujours été un peu de la bouette depuis les hommes des cavernes. Donc, aujourd'hui, on jette un coup d'œil au pire de l'Église catholique. L'Église catholique, cette institution qui a marqué l'histoire par son influence sur des millions de croyants dévoués à travers le monde, ainsi que par un paquet d'autres affaires beaucoup moins le fun, constamment balayées sous le tapis, genre torture, chasse aux sorcières, massacre de protestants, d'homosexuels, guerre de religion, les croisades, l'Inquisition espagnole et tout ça, en étant parfaitement à l'aise de garder dans ses rangs beaucoup de pédophiles en position de pouvoir avec accès illimité à des enfants qui chantent. Anyways, la personne en charge de tout ça s'appelle le pape. Oui, je sais qu'aujourd'hui, on est habitué à des souverains pontifs 2.0 qui font de gros efforts sur Twitter pour être ouverts d'esprit sur le fait que les gens devraient porter des condoms. Mais voyez-vous, si on décidait de jeter un coup d'œil par le trou de la serrure historique du Vatican, on découvre assez vite qu'un gros tas de papes trempait dans des histoires de corruption, scandales sexuels, meurtres politiques, fourrés des animaux... Et tout ça à des époques où le pouvoir papal était transféré bien souvent aux plus fortunés, aux plus influents, quand c'est pas tout bonnement de père en fils. Mais Charles, c'est impossible, le pape a fait vœu de chasteté, commencez-vous à comprendre le nœud du problème? Alors attachez votre mitre avec de la broche, ouais ça le mitre ça c'est le chapeau du pape, je me suis préalablement chargé de faire la recherche Google de « What's the name of the fucking pope hat? » Parce que c'est parti pour le palmarès des pires papes. On voit le générique.
Numéro 10, Boniface 8, pontificat de 1294 à 1303.
Bon, alors, élu un 24 décembre comme un cadeau de Noël avec un écureuil mort à l'intérieur de la boîte, Boniface VIII est célèbre pour avoir porté à son sommet l'absolutisme théocratique de la papauté. Ça, en gros, ça veut dire que, selon lui, le pape devait être le maître du monde, c'est ça qui est ça, vous avez rien à redire, que vous soyez un paysan ou un empereur, ouvrez la bouche et préparez-vous à recevoir une bonne dose de pape. Donc, le pape aurait essayé d'accroître son pouvoir en s'appropriant de plus en plus de territoires. Comment? Eh bien, grosso modo, en bouliant tous les peuples autour pour faire partie de son armée, un peu à l'image de Sauron dans Le Seigneur des Anneaux. Oui, by the way, le pape faisait la guerre à l'époque. La plupart du temps par le biais de nonos fanatiques armés d'objets coupants, mais des fois, il faisait lui-même la sale job pour le plaisir, genre littéralement le pape avec une épée qui fait rouler des têtes comme dans Braveheart, ce qui est quand même un peu cool quand on prend le temps de l'imaginer. Mais plusieurs royaumes d'Europe ne trouvaient pas ça aussi nice. Quelqu'un devrait dire au pape de se calmer les foufounes. C'est très chouette la religion, mais non, Boniface VIII, vous ne serez pas le boss de toutes. Alors Boniface se serait donc pogné comme ça avec plein de dirigeants de toutes sortes de pays, entre autres avec le roi Philippe le Bel de France, au sujet de la perception de certains impôts que le premier estimait revenir à l'Église, dans le sens de « Ah ouais, by the way, selon cet édit pontifical que j'ai écrit, tout votre cash est à moi. Allez, par ici l'oseille. » Il va aussi inciter les princes allemands à se rebeller contre le Saint-Empereur romain germanique, en gros ce qui est aujourd'hui l'Allemagne, Albert Ier. Je répète, le saint empereur romain germanique. Ils étaient du même bord. Ouais, de l'extérieur, tout ça est très rigolo, mais pendant que le pape provoque des chicanes à travers l'entièreté de l'Europe, c'est effectivement monsieur et madame tout le monde qui payent le prix de la bonne vieille guerre comme on la connaît au Moyen-Âge, où des villages entiers sont rasés, les villes sont anéanties, et bien sûr, 90% des habitants sont passés au hachoir à viande.
Détail dark.
Donc, dans un tout autre ordre d'idées, à un moment donné, Boniface VIII aurait dit de façon tout à fait arbitraire que coucher avec des jeunes garçons est aussi anodin que se frotter les mains ensemble. Tu sais, le pape, à quel point il faut être une mauvaise personne pour être autant in your face avec ta pédophilie?
Numéro 9. Serge III, pontificat de 904 à 911.
Non, non, pas comme Réal Bossé dans une galaxie près de chez vous. Les choses sont bien pires. Non, sérieusement, googlez-le, ça fait ça pas d'allure. On dirait un vautour dans une doudoune. Bref, Serge III. Déjà, son règne est surnommé par les historiens la pornocratie. Here we go. Alors, pendant longtemps, le pape aurait eu une maîtresse, dénommée Marozzi, issue d'une noble famille italienne super influente, les Comtes de Tusculum, mais nous en reparlerons. Marozzi aurait même donné à Serge III un fils, qui serait lui-même devenu pape. Non, mais pape, fils du dernier pape, c'est un choix de carrière plutôt culotté, ou pas assez, dépendamment du point de vue. En fait, la raison pour laquelle on parle souvent de la papauté de Serge III comme, et je cite, « le règne des putes », c'est qu'à l'époque, on était persuadé qu'il était contrôlé par Marozzi à grand coup d'avoir son pénis entre les mains.
Détail intéressant.
Ouais, dans les faits, on ne sait même pas pour vrai si c'était sa maîtresse. Marozzi et sa mère Théodora étaient toutes les deux reconnues pour être très belles, très riches et cultiver moult intrigues politico-sexuelles pour accroître leur pouvoir à Rome. Mais c'est tout. En gros, c'est tout. On suspecte que Serge III était une de leurs marionnettes et bon, beaucoup d'historiens se demandent encore si son successeur, le pape Jean XI, était vraiment son fils. Peut-être que oui, peut-être que non, mais bon, disons surtout que l'idée qu'une femme contrôle le pape n'était pas excessivement bien vue en 904. Ça s'est donc suivi beaucoup de slut-shaming médiéval pour la discréditer elle et Serge III.
Détail weird!
Serge III était également reconnu pour être le pape qui organisait des parties, ou le party pope, si vous me permettez l'expression. Et fait tout à fait bad trippant, sur son lit de mort, il aurait fait venir à lui une nourrice pour boire le lait maternel à même ses seins. À ce stade-ci, qu'est-ce que vous voulez que je dise?
Numéro 8. Léon X, pontificat de 1513 à 1521.
Léon était un Médicis, une famille excessivement riche et puissante à l'époque, comme ils se font un plaisir de nous le rappeler sans arrêt si vous avez écouté ne serait-ce que 2 minutes de TV5. Non, je n'espère pas qu'ils pluguent cette information-là jusque dans leurs émissions de cuisine et leurs mood talk show français malaisants qui n'ont pas de rythme parce que les Français sont pas capables de faire de talk show, ni de musique rock d'ailleurs. Mais je m'égare. Fait que les Médicis sont très riches et très puissants, donc c'est pas si surprenant d'apprendre que Léon X aurait skippé le vœu de pauvreté, tournant ainsi le dos au plaisir de la soutane en jute et des pieds dégueulasses. Non, à la place, il se serait mis à dépenser l'argent de l'Église allègrement. Il serait devenu un mécène très important en Italie, un patron des arts. Il aurait entre autres entrepris de grandes rénovations à la cathédrale Saint-Pierre de Rome, toutes des choses qui coûtent de gros bidous de la Renaissance. Ce qui fait que, question de financer ça, il se serait mis à vendre du mobilier et des statues qui appartenaient au Vatican.
Détail intéressant.
Ouais, malheureusement, quand il a vu que c'était pas assez pour financer ses extravagances, Léon s'est mis à faire ce qu'on appelle vendre des indulgences. Alors en gros, si tu commettais des péchés, tu pouvais te sauver de l'enfer en payant le pape. Bon, aujourd'hui, ça a l'air de moyen vraiment malin de profiter d'un nombre incroyable d'imbéciles, mais à l'époque, c'était un gros no-no. Assez pour inspirer nul autre que Martin Luther, l'initiateur du protestantisme, comme dans « Bonjour, je suis Martin Luther et j'aimerais créer une autre église parce que le pape gère les choses comme un véritable Kardashian. Mais merci pour les cathédrales, les touristes japonais vont beaucoup triper. »
Numéro 7. Jules II, pontificat 1503 à 1513.
Jules II, c'est lui qui a demandé, entre autres, à son bon chum Michel-Ange de peindre le plafond de la chapelle Sixtine. Vous savez de quoi je parle, la chapelle Sixtine, la peinture d'Adam puis Dieu qui se touche le doigt. Ben, c'est Jules II qui a fait faire ça. Merci, Jules. Toutes ces personnes à la recherche d'un fond d'écran d'ordinateur pseudo-original te sont éternellement reconnaissantes. Mais le détail complètement dégueulasse qui accompagne tout ce sympathique mécénat, c'est qu'à un moment donné, Jules II aurait contracté ce qu'on appelle la maladie française, la syphilis, pour cause de consommation abusive de prostituées romaines ou de prostituées romains. Rendu là, vous doutez bien que vraiment pas ce détail-là qui va faire pencher quelques balances que ce soit. Et mon Dieu, quelle syphilis il va pogner! Il y avait apparemment tellement de plaies syphilitiques que lors du Vendredi Saint, on demandait aux croyants de s'abstenir si possible de baiser les pieds du pape. Je veux dire, c'était déjà étonnant que ce soit une habitude de baiser les pieds du pape, mais quand le monde du 16e siècle te dise que tu devrais t'abstenir parce que c'est trop dégueu, c'est énormément de syphilis, ça, les amis.
Numéro 6. Benoît IX. Pontificat. Quelque part au 11e siècle.
Donc, de son vrai nom, Théophylacte de Tusculum, vous avez bien dit qu'on allait revenir à la famille Tusculum. Alors, Théophylacte de Tusculum, voilà, on comprend qu'avec un pareil nom de maladie de peau, tu cherches n'importe quelle façon de le changer.
Docteur, j'ai un très gros problème de Théophylacte de Tusculum. Je ne peux plus m'asseoir depuis des semaines.
Donc, la solution de Théophylacte aurait été de devenir souverain pontife et prendre un bon vieux nom de pape avec un chef à la place d'une autre famille. Le problème avec lui, c'est qu'entre autres, les experts s'entendent pas sur l'âge exact auquel il a accédé au trône papal. Certains disent qu'il aurait eu 20 ans, d'autres disent qu'il avait à peine 12 ans, mais une chose est sûre, il était beaucoup trop jeune pour être pape. T'étais à la tête des armées de la chrétienté. T'es considéré par tout le continent, sauf les juifs, comme le représentant de Jésus sur terre. C'est beaucoup de pouvoir à mettre entre les mains de quelqu'un avec une moustache molle, plein d'hormones pis de colère qui a pas de contrôle sur ses érections. On l'a décrit comme un être si exécrable et abject qu'il en donnait froid dans le dos. En fait, la majorité des témoignages qu'on a sur son pontificat sont des extraits des journaux intimes de ses cardinaux qui, pour la plupart, disent grosso modo
« Cher journal, le pape est si exécrable et abject qu'il m'en donne froid dans le dos. »
Détail intéressant.
Dans le livre de Gomorre, qui est un traité du 11e siècle sur la sodomie chez les papes, et si seulement je niaisais, mais non, en 1051, faut croire qu'il fallait vraiment faire le point là-dessus. Bref, on le décrit comme un démon en costume de prêtre, dans un ouvrage, je le rappelle, spécialement dédié au pape qui aimait tellement la sodomie que ça s'est ramassé dans un livre pour rappeler au pape de ne pas se sodomiser. Je vous le donne en mille, Benoît IX était très homosexuel. Ce qui, en soi, ne fait évidemment pas de toi une mauvaise personne. C'est surtout que les choses vont devenir un peu compliquées quand on va lui demander d'essayer d'arrêter d'être le pape.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ce qui s'est produit, c'est qu'en 1044, ses opposants politiques vont le chasser de Rome et le remplacer par le tout nouveau Sylvestre III. Évidemment, bon, les Tusculum l'ont pas pris, alors ils ont envoyé une armée lui faire sa fête. Benoît est redevenu pape, mais finalement, il a décidé que ça y tentait plus. Alors, son parrain est venu le remplacer en tant que Grégoire VI. Deux semaines plus tard, Benoît a décidé qu'en fin de compte, ça lui retentait. Alors, il est revenu, reprendre prendre Rome. Puis on se ramasse dans une espèce de situation papale super awkward où Benoît est pape, Grégoire VI est encore considéré comme le pape par une grande partie de la population, et croyez-le ou non, c'est le Q qu'a choisi Sylvestre III pour revenir essayer d'être pape lui aussi. Et en fin de compte, c'est le Saint-Empereur romain germanique qui a décidé que c'était lui qu'on gardait pour acheter la Vierge de paix. Le saviez-vous? Le pape ayant connu la papauté la plus courte est Stéphane II. Sacré pontife en 752, il meurt d'une crise d'apoplexie. Désolé Stéphane, ce n'était pas fait pour arriver. Par ailleurs, le pape dont le règne fut le plus long n'est nul autre que Saint-Pierre lui-même, qui aurait été pape de l'an 32 à 67, pour un total de 35 années de service. Et ce, en plus d'avoir personnellement connu Jésus, by the way. Qu'est-ce que vous voulez? Dans la vie, il y en a qui ont simplement tout.
Numéro 5. Urbain II, pontificat 1088 à 1099.
Urbain, c'était un bon diplomate. Puis, il y avait beaucoup de leadership, de belles qualités pour le chef d'une institution puissante. C'était probablement le plus religieux des papes sur notre liste. En fait, tellement pieux que quand il apprenait qu'un de ses cardinaux était marié ou avait des bâtards, il les emprisonnait et vendait leur famille en esclavage. Jusqu'ici, tout est normal en 1088. Mais si aujourd'hui on se rappelle d'Urbain II, c'est que c'est le pape qui a déclenché la première croisade. Ça, en gros, les amis, les croisades, c'est le pape qui se serait dit « Hey, je pensais à ça, Jérusalem en Palestine. Ça dit ici que Jésus de Nazareth est allé faire un paquet d'affaires super importantes là-bas. Ça devrait être à nous.
Oui, mais votre sainteté, la ville est déjà occupée par beaucoup, beaucoup de musulmans. »
Eh bien, voici ce que nous allons faire. Nous allons rassembler tous les chevaliers weirdo obsédés par Dieu au point d'en être borderline psychopathes disponibles et les envoyer là-bas faire des milliers de victimes juives, musulmanes, hommes, femmes et enfants confondus avec du gros viol dans le tapis. Et si possible, j'aimerais qu'on répète l'expérience 9 fois dans l'histoire avant de dropper la balle en 1272 parce que c'est trop difficile et ça nous tente plus. Tout ça ne servira à rien.
Voilà, Urbain II, le gars qui a mis à la mode ça.
Numéro 4, Étienne VI, pontificat 1378 à 1389.
Bon, techniquement, son nom en latin, c'est Stéphanus, mais il semblerait que la personne qui traduisait le nom des papes trouvait que Stéphane, ça sonnait trop technicien en informatique avec une très longue queue de cheval pour être pape. Alors voilà, c'est Étienne. Étienne VI a été pape moins d'un an, alors on n'a pas pu voir toute l'étendue de son potentiel de crazy ass, mais il a ouvert le bal avec un événement assez spectaculairement débile pour se mériter une place dans le palmarès. Il a fait un procès à son prédécesseur, considéré comme louche et corrompu. J'ai nommé le pape Formose. Léger détail qui va grossement changer la donne ici, c'est que Formose était 100% mort lors du procès.
Détail dark.
Étienne VI n'aimait vraiment pas Formose. En fait, il l'aimait tellement pas qu'une fois au pouvoir, il aurait fait déterrer Formose de la crypte des papes, rhabiller la vieille momie sèche en soute de pape et asseoir le cadavre de pape dans une basilique pour le poursuivre en justice. Ils ont appelé ça le concile cadavérique. Et en gros, l'événement consistait en plusieurs heures de Étienne VI qui chicane un doux de mort qui répond rien parce qu'il est mort. Les conversations devaient être tellement le fun dans les gradins. Ouais, là, faut dire de quoi, là? Ça fait 2 heures que le pape s'engueule avec un gars caché derrière la chaise qui fait bouger le cadavre de l'ancien pape en le faisant parler avec une voix de marionnette. On est au Moyen-Âge, on met toujours bien les hosties de limite. Oh, 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 moi, je m'implique pas là-dedans. S'il est capable de faire ça, un doute déjà mort, vaut mieux essayer de le contredire le moins possible. Donc, à moi, on est mieux de juste crier une couple de fois, va chier Formose, puis pas trop attirer l'attention. Ouais, donc, inutile de vous dire que, rendu là, tout le monde a commencé à réaliser que le pape est débile. Alors, ils ont fait comme on fait d'habitude dans ce genre de situation. Ils l'ont jeté en prison. Et c'est quoi les chances? Quelqu'un est accidentellement venu l'étrangler dans son sommeil. Non, mais first day on the job, puis il engueule un cadavre. Il y avait encore son macaron pape en formation.
Numéro 3. Urbain VI. Pontificat 1378 à 1389.
Alors, en gros, lui, on lui doit une des plus grosses divisions de l'histoire de l'Église catholique, et ça, je vous confirme que ça ne fait pas partie du « et autres tâches connexes » dans le contrat de pape. Donc, Urbain VI était reconnu pour être, et je cite, « arbitraire, imprévisible et violent ». Il était à ce point douchebag que quand il est devenu pontife, un shitload de cardinaux se serait dit « wow ».
Urbain VI, ça c'est une Christine mauvaise idée. Allons à Avignon et créons notre propre pontificat parce que nous ne voulons aucune de cette shit.
Fait que voilà, pendant presque 40 ans, il y a eu deux papes, des fois trois, tu sais, un pape de plus ou de moins, dans ce qui a été baptisé le grand schisme de l'Église catholique. Donc voilà, pendant un bout, il y avait plein de papes qui se chicanaient, puis c'était vraiment poche à gérer à l'époque. Tout ça à cause de cet enfoiré d'Urbain VI. Donc pendant ce temps-là, Urbain VI était pire que jamais, parce qu'il s'est rendu compte que personne ne l'aimait. Ouais, donc à un moment donné, ils ont entendu parler d'une conspiration pour le sortir du pouvoir. Il aurait fait arrêter 6 cardinaux, c'est quand même beaucoup de cardinaux, et les a tous gentiment invités à aller se faire torturer. Non seulement ça, mais quand il a réalisé que le bruit des gens torturés était pas suffisamment satisfaisant, il aurait demandé, et je cite,
« Mais enfin, craquez-moi le volume de cette torture, bon sang !» Ah! Beaucoup mieux!
Il n'a pas dit ça dans ces mots-là, mais il a vraiment fait ça.
Numéro 2. Alexandre VI. 1492 à 1503.
Oui, je sais, ça fait trois papes de suite avec le chiffre 6. Oui, ça fait 6 et 6. Non, c'est pas un hasard. Fouillez-moi, c'est de l'humour de top 10. Alors, Alexandre, c'était à l'origine le cardinal Borgia, qui était tellement débauché qu'il a inspiré une série télé aujourd'hui, The Borgias, en vente dans tous les bons Renaud-Bray. À seulement 25 ans, il est devenu cardinal, non pas parce qu'il était très qualifié, mais parce que son oncle était le pape Calixte III. Il avait donc pas nécessairement l'appel du divin, il a eu genre 4 ans enfin.
C'est certainement pas le fait d'être cardinal qui va m'empêcher de baiser, ouais!
Ça, c'était avec sa femme. Il a aussi eu plein de maîtresses. Quand il est devenu pape en 1492, évidemment, il a upgradé tout ça pour une concubine de 15 ans, un succulent move tout à fait Alexandre VI. Bon, ensuite, évidemment, il est devenu super corrompu, il a donné des postes importants à tous ses enfants. Ils sont devenus The Borgias, aussi disponibles sur iTunes.
Détail dark.
Mais sinon, en privé, c'est aussi l'inventeur d'un événement que l'on appelle le banquet des châtaignes ou la joute des putes, dépendamment de qui vous essayez de convaincre que ça sonne comme un bon plan pour la soirée. Je vous garantis qu'aucune femme n'a gagné la joute des putes. Alors en gros, on invitait une cinquantaine de travailleuses du sexe à un banquet pour danser et se dénuder devant les invités, parce que rien n'accompagne mieux des canapés au saumon qu'une paire de gros joues. Et là, les convives devaient lancer des châtaignes par terre et les prostituées les ramasser à quatre pattes en imitant des animaux. Suite à quoi, bien sûr, les gens étaient invités à aller se gâter avec la fille de leur choix. Et à la fin de la soirée, il y avait des prix, comme des vêtements ou des bijoux, pour celui qui avait fourré le plus. Ouais, comme des toutous géants de bananes avec des yeux dans les jeux d'adresse à la ronde. Tu sais, une journée comme une autre chez l'ambassadeur de Jésus de Nazareth.
Numéro 1. Jean XII, pontificat 955 à 964.
Ah, enfin, le plus dégueu de la gang.
Alors, transformer le palais du Latran et sa basilique en bordel, check. Coucher avec des vierges, parce que coucher avec des vierges, check. Coucher avec des veuves, check. Est-ce qu'on a couché avec des orphelins? Non, mais beaucoup des veuves n'étaient pas nécessairement consentantes. Culture du viol, check. Avoir assez mauvaise réputation avec les femmes pour que l'on déconseille aux pèlerines de visiter Saint-Pierre quand il était là, check. Évoquer le nom du diable en trinquant, possiblement lors d'orgies, check. Prier des dieux païens quand ils jouaient à des jeux de hasard.
Come on, Dionysos, donne-moi un 6.
Check, check. Chasser, parce que ce qui paraît, c'était un big no-no quand tu étais pape. Vous souvenez-vous quand il violait des pèlerines? Check! Torturer ses ennemis, castrer des gens, brûler des yeux au fer rouge et une fois de temps en temps, incendier des maisons. Check, check, check! Et finalement, on raconte qu'il se serait fait tuer par le mari d'une de ses amantes après s'être fait pogner le pénis dans le sac. Check!
C'était vraiment le dernier qui me manquait pour avoir la diagonale. Donc, qu'est-ce qu'il y a à retenir de tout ça? Que partout où il y a du pouvoir, il va forcément y avoir de la corruption. Je pense que la façon dont il faut voir les choses, c'est que oui, Le pape avait un rôle religieux de prime abord, mais c'est surtout un poste qui, bon, à une époque où tout se réglait avec une épée dans le chest, représentait un pouvoir comparable à celui des rois et des empereurs. Il est compréhensible que ce soit le genre de choses qui attirait tout un lot de weirdos qui n'avaient pas nécessairement le partage de la bonne nouvelle en priorité. Un peu à l'image de beaucoup de nos politiciens modernes. Je crois qu'il est important de se rappeler que pendant très longtemps, le pape était un politicien. Et ça fait pas longtemps que l'office papal en est plus un d'intrigue sur l'échiquier international. Là où ça devient intéressant, c'est que les scandales de corruption, de prostitution, pédophilie, entre autres, sont encore une fois tous des abus de pouvoir dont sont accusés bon nombre de politiciens aujourd'hui. Là où il y a du pouvoir, il y a de la corruption. Est-ce que les choses étaient nécessairement pires au Moyen-Âge? Pas dans son contexte, je ne crois pas. Ce qui, d'une certaine façon, est l'objectif de la série, remettre en contexte le pire du pire et en profiter pour en apprendre un peu plus sur nous. Sinon, dans le pire des cas, j'espère que tout ça aura contribué à vous faire sentir un peu moins mal de transformer toutes ces églises en condos. Je m'appelle Charles Beauchesne, et le cauchemar se poursuit dans un prochain épisode. Les pires moments de l'histoire, c'est, au texte et à la recherche, Charles Beauchesne, Audrey Rousseau et Catherine Thomas. Pour Urbania, la rédactrice en chef, Barbara-Judith Caron. Et la productrice exécutive, Raphaël Huysmans. Le balado « Les pires moments de l'histoire » avec Charles Beauchesne est une production d'Urbania.
C'était un balado Urbania. Abonnez-vous donc et notez l'émission sur iTunes ou Google Play. E-boy.